Chapitre 3. Même jour, 8 heures du soir. Me voici rentré dans mon cabinet de travail. Il y fait froid. Madame Menin, qui prend soin de mon ménage, a laissé mourir le feu. Tiens, elle a aussi oublié son plumeau sur le manuscrit de ma thèse. Est-ce un emblème, un présage de cette poussière qui attend mon œuvre encore inachevée? Qui saura tout l'esprit du hasard? 8 heures. Maître Mouillat, ses procédures accomplies, doit commencer son whist avec Maître Orlé et Maître Hublette, avocats à la cour de Bourges. Ils m'attendent. C'est là une affreuse pensée. Oublions, mon cœur, oublions. Et M. Charnot, je suppose qu'il continue à faire tourner la spirale. Les hommes graves s'amusent à des riens, vraiment. Je suis peut-être un homme grave, tout m'amuse. À propos, est-elle blonde ou brune, mademoiselle Jeanne? Voyons, recueillons nos souvenirs. Mais certainement, elle est blonde. Je revois les reflets dorés sous la lampe des cheveux légers qui frisent autour de ses tempes. Elle a un aimable visage, d'ailleurs, cette jeune fille. Pas régulier, mais rose, ouvert, et puis l'air vivant qui manque à tant de jolies femmes. Madame Menin a encore oublié quelque chose, c'est de fermer ma fenêtre. Elle en veut à mes jours. Madame Menin croit à la métempsycose. Si jamais elle renaît, ce sera dans le corps d'un étourneau. Je viens de fermer la fenêtre. La nuit est calme, avec des étoiles voilées et tremblotantes. L'année finit mélancoliquement. Je me souviens que, par une nuit semblable, au collège, je m'étais réveillé tout à coup, un rayon de lune m'ayant ouvert les yeux. Il y a toujours une petite anxiété à ressaisir ses sens en pleine nuit, au milieu de ce monde immobile qui n'est pas fait pour eux. Je regardais d'abord les deux rangées de lits du dortoir, fuyant parallèlement selon les lois de la perspective, mes camarades enfoncés sur leurs couvertures et formant tantôt des masses grises, tantôt des masses blanches, suivant qu'ils couchaient loin ou près des fenêtres, la lumière fumeuse du quinquet posée sur une cloison au milieu de la salle et tout là-bas, dans les profondeurs de l'ombre, la cage formée de deux rideaux jaunes où dormait le surveillant. Aucun bruit autour de moi. Tout reposait. Au dehors, mon oreille surexcitée par la petite fièvre de l'émotion percevait un chant étrange, très doux, 100 fois répété. C'était des notes détachées, notes d'appel, tendres et anxieuses. Par moments, elles s'éloignaient et je ne les entendais plus que comme une petite fumée de son. Puis elles se rapprochaient, passaient au-dessus de moi et s'éloignaient encore. Ce clair rayon de lune m'invitait à découvrir le mystère. Je sautai du lit et, en chemise, j'allais ouvrir la fenêtre. Il pouvait être 11 heures. L'air piquant de la nuit et la lumière m'enveloppèrent en même temps et me causèrent une impression délicieuse. La cour était déserte, avec ses peupliers dépouillés et ses grilles à fer de lance. Le sable brillait par endroits. Je levai les yeux et, d'une constellation à l'autre, j'eus beau interroger le bleu profond du ciel, pas une ombre, pas une aile noire ne s'y découpait. Toujours, cependant, les mêmes cris tristes et doux s'égrenaient dans l'air, chant d'un être invisible qui paraissait me vouloir quelque chose et m'avait peut-être éveillé. La pensée me vint que c'était l'âme de ma mère qui m'appelait, de ma mère dont la voix était très faible et très harmonieuse aussi. « Je songe à toi, disait-elle, je songe à toi, je te vois, disait-elle, je te vois, je t'aime, disait-elle, je t'aime. » « Montrez-vous, répondais-je. Oh, ma mère, montrez-vous !» Et je cherchais, tout inquiet, suivant la voie dans les cercles qu'elle parcourait, et, ne découvrant rien, je me mis à pleurer. Tout à coup, je fus brutalement saisi par l'oreille. « Que faites-vous là, petit misérable? Êtes-vous fou? Le vent vient jusqu'à mon lit. 500 vers !» Le surveillant, en caleçon et pantoufles, roulait des yeux terribles. « Oui, monsieur, certainement, monsieur, mais écoutez donc comme elle parle. »«
Qui ça ?»«
Ma mère. » Il me regarda pour voir si j'étais éveillé, prêta l'oreille, la tête penchée de côté, puis ferma la fenêtre avec colère et s'en alla en haussant les épaules. « Ce sont des vanneaux qui font le tour de la lune, dit-il, 500 vers. » Je les ai faits, les 500 vers. Ils m'ont appris ce qu'il y a d'extra-légal et de dangereux à être un rêveur. Ils ne m'ont ni convaincu, ni guéri. Je crois encore qu'il y a, éparses dans la nature, des voix qui parlent et que bien peu entendent, comme il y a des millions de fleurs qui éclosent loin de tout regard humain. Malheur à ceux qui en devinent quelque chose. Ils retourneront invinciblement à ces sources cachées, ils répandront en de vagues illusions leur force et leur jeunesse, et pour la fugitive impression qu'ils auront goûtée, pour la phrase incomplète qu'ils auront perçue, ils auront sacrifié le commerce des hommes et l'amitié même. Oui, malheur aux écoliers qui ouvrent leurs fenêtres pour voir trembler la lune et qui ne se corrigent pas. Ils se trouveront de très bonne heure, isolés dans la vie, réduits à eux-mêmes, comme moi ce soir, au coin de mon feu mort. Pas un ami ne viendra frapper à ma porte, pas un. J'ai bien quelques camarades auxquels je donne ce titre. Nous ne nous détestons pas. Au besoin, ils me rendraient service. Mais nous ne nous voyons guère. Que viendraient-ils faire ici? Les rêveurs ne se confient pas, ils se dérobent. Ils s'en vont aux quatre vents du ciel, la politique les ennuie, une nouvelle les laisse indifférents, les douleurs qu'ils se créent n'ont de remède que les joies qu'ils inventent, ils ne sont naturels que lorsqu'ils se retrouvent seuls et ne causent bien qu'avec eux-mêmes. Ce travers d'esprit, un seul me l'a pardonné, c'est Sylvestre Lampron. Il a près de 20 ans de plus que moi, c'est pour cela qu'il est indulgent. D'ailleurs, entre un rêveur comme moi et un artiste comme lui, il n'y a que la distance du métier. Il traduit ses rêves, moi je dissipe les miens, mais nous rêvons tous deux. Cher Lampron, la bonne et vaillante nature, il a résisté à cet épaississement moral et physique qui s'empare de tant d'hommes aux approches de la quarantaine. Il fait bonne mine au travail et bonne mine à la vie. Il est gai, de la gaieté virile des honnêtes gens résignés. Presque toujours, quand j'arrive chez lui, je le trouve assis devant une petite fenêtre aux vitres dépolies, dans un coin de l'atelier, courbé sur quelques gravures. J'ai la permission d'entrer à n'importe quelle heure. Il a celle de ne pas se déranger. Sans lever les yeux, sans savoir au juste qui vient d'ouvrir la porte, il répond « Bonjour », puis continue la hachure commencée. Je m'installe alors sur le canapé du fond, recouvert d'une housse fanée, et je suis libre, jusqu'à ce que Lampron veuille bien me donner audience, de dormir, de fumer ou de feuilleter les merveilleux cartons appuyés le long du mur. Il y a là des trésors inestimables, car Lampron est un artiste de génie qui n'a que le tort de vivre et d'être modeste. Aussi ne lui accorde-t-on encore qu'un beau talent. Nul parmi les peintres et les graveurs en renom, il est l'un et l'autre, n'a fait un apprentissage plus consciencieux et ne pousse au même degré que lui la probité de son art. Son dessin est d'une correction irréprochable, un peu sévère même, comme celui des primitifs. On devine, à parcourir ses œuvres, sa préférence pour les vieux maîtres, Perugin, Fra Beato, Botticelli, Memling, Holbein, qui ne sont pas les maîtres à la mode, mais qui sont demeurés ceux de la vigueur du trait, de la simplicité, de la grâce naïve, de l'émotion vraie. Il a copié à l'huile, à la gouache, à la plume, au crayon, presque tous les tableaux de ses peintres, au Louvre, en Allemagne, en Hollande, en Italie surtout, où il a longtemps vécu. Avec de pareils goûts, l'habitude, ou plutôt l'irrévocable décision de ne peindre ou de ne graver que des portraits ou des scènes religieuses, l'horreur des réclames et des coteries, un idéal archaïque servi par des procédés nouveaux, un pareil artiste ne peut guère avoir que l'estime parfois jalouse des gens du métier et des rares connaisseurs qui connaissent quelque chose en art. Il laisse volontiers à d'autres, avec le plus absolu dédain, les faveurs de la foule, le succès doré de l'exportation américaine et le droit de porter des manchettes de dentelle. En un mot, dans un temps où l'artiste se double souvent d'un industriel et quelquefois d'un charlatan, il n'est qu'un artiste. Quand il est riche, ce qui arrive, ce n'est jamais pour longtemps. Une partie de ce qu'il a reçu passe en aumône, l'autre dans la besace des confrères mendiants. Ils accourent, la main tendue, au bruit de l'or à peine compté. Chacun est au plus creux de l'infortune, à la veille de remonter la pente fatale, perdu si la main secourable de Lampron n'y pourvoit, sauvé s'il prête de quoi acheter un bloc de marbre, de quoi payer le modèle, de quoi dîner le soir. Il prête, autrement dit, il donne. Ce sont des mots synonymes dans plusieurs mondes. Et de tout ce qu'il a gagné, la gloire seule lui reste. Encore n'en prend-il que le moins qu'il peut, humble, retiré, fuyant les fêtes. Je crois qu'il n'aurait souvent pas de quoi vivre sans sa mère, qu'il fait vivre et qui lui rend ce grand service d'avoir besoin de quelque chose. Elle ne thésaurise pas l'excellente Madame Lampron, elle joue seulement le rôle des barrages en gazon que les paysans, au printemps, construisent dans les ruisseaux de notre Berry. L'eau passe par-dessus, par-dessous, même au travers, mais il en reste un peu pour les grandes sécheresses. Je l'aime, mon ami Lampron, avec la pleine conscience de sa supériorité. Son énergie me remonte, son conseil m'affermit. Il peuple pour moi la solitude profonde de Paris. Si j'allais le voir, veiller seul ce soir, c'est plus triste que de coutume. La mort de l'année amène des pensées tristes. 31 décembre, Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, mais c'est sa fête. Oh, ingrat qui n'y songeait pas. Vite, prends ton pardessus, ta canne, ton chapeau, et cours, avant qu'il ait gagné le lit, chez ces deux réveille-l'aube. Même jour, 11 heures du soir. Quand j'entrais dans l'atelier, Lampron était tellement absorbé par le travail qu'il ne m'entendit pas. La vaste pièce, éclairée seulement dans un angle, avait une physionomie étrange. Autour de moi, les tableaux pendus à toutes les hauteurs, les chevalets dressés le long des murs, les moulages d'antiques accrochés çà et là, n'offraient que des teintes de cendre et de fumée, des formes vagues qui se prolongeaient et mêlaient leurs ombres jusqu'au milieu du plafond. Un mannequin drapé, tombé contre une porte, écoutait le vent siffler. La baie immense du vitrage ouvrait sur la nuit. Rien ne vivait dans cette partie de la salle, rien ne luisait, si ce n'est quelques étincelles sur l'or des cadres et sur la lame de deux épées en croix. Seulement, dans un coin, tout au fond, à une distance qu'exagéraient les ténèbres, Lampron gravé, seul, immobile sous le feu de sa lampe. Il me tournait le dos. La lumière éclairait fortement sa main fine, la courbe dégarnie de sa tête qu'elle entourait d'une auréole, et un portrait, une tête de femme, qu'il copiait. Je le trouvais superbe ainsi, et je pensais que cette scène intime, par son sens profond et par son clair-obscur, eût doublement tenté Rembrandt. Je frappai du pied. Lampron tressaillit et se tourna à demi. Ses yeux se plissèrent pour fouiller l'ombre. « Ah, c'est toi ? » dit-il. Et, se levant, il s'avança rapidement vers moi, comme pour m'empêcher de m'approcher de la table. « Tu ne veux pas que je voie ?» Il hésita un instant. « Au fait, répondit-il, pourquoi pas ?» La planche de cuivre était à peine rayée de quelques traits de pointe. Il tourna tous les faisceaux lumineux du réflecteur vers le modèle. « Oh, l'admirable tête, Lampron !» Elle était adorable, en effet, cette tête d'adolescente italienne, posée de trois quarts, peinte à la manière de Léonard, avec des lignes fondues et fortes, des reflets, des dégradations de teintes d'une douceur infinie, ayant, comme les portraits de femmes du maître, un regard droit qui va toujours au-delà du vôtre et qu'on interroge en vain. Les cheveux bruns, avec des scintillements d'or, se modelaient en bandeaux sur les tempes. Le cou, un peu long, sortait d'une robe sombre, indiquée largement. « Je ne connaissais pas cela, Sylvestre. Non, c'est une vieillerie. Un portrait, évidemment. Mon premier. Tu n'as jamais fait mieux. Le dessin, la couleur, la vie, tout y est. À qui le dis-tu ? Il y a, vois-tu, aux heures de jeunesse, des moments d'inspiration véritables où quelqu'un nous parle à l'oreille et nous conduit la main, une légèreté de touche, une inexpérience hardie et heureuse, une audace féconde qu'on ne rencontre plus ensuite. Croirais-tu que j'ai essayé 10 fois de reproduire cela à l'eau forte sans y parvenir ? Pourquoi essaies-tu ? Oui, pourquoi, n'est-ce pas ? C'est un peu de folie. Tu ne retrouverais pas un pareil modèle, et c'est une raison. Oh non, tu dis bien, je ne le retrouverai pas. Quelque italienne de haut rang, une princesse peut-être. À peu près. Qu'est-elle devenue ? Et sans doute ce que deviennent les princesses. Fabien, mon jeune ami, qui vois encore la vie à travers les contes de fées, tu dois lui supposer un sort heureux, te la représenter riche, très gâtée, très adulée, parlant du bout des lèvres, sur la terrasse de sa villa au Grand Pin, tandis que la nuit tombe, de ce barbare d'au-delà des Alpes qui fit son portrait à 20 ans et de la dernière toilette qu'elle a reçue de Paris. Oui, je la vois ainsi, très belle encore. Tu devines admirablement, Fabien. Elle est morte, mon cher, et cette idéale beauté est réduite à quelques os blancs au fond d'une tombe. Pauvre fille ! Sylvestre, en me parlant, avait pris un ton de sarcasme qui ne lui était pas habituel. Il regarda son œuvre avec une émotion si vraie et si triste que j'en fus frappé. Je compris que, dans ce passé de sa vie, dont je savais peu de choses, l'emprunt cachait une douleur que j'avais, sans le vouloir, avivée. « Mon ami, lui dis-je, laisse tout cela. Je viens te souhaiter ta fête et t'embrasser. »« Ma fête. C'est vrai, ma pauvre mère me l'a souhaitée ce matin. Puis je me suis mise au travail et j'ai oublié le reste. Tu as bien fait de venir. Elle aurait de la peine, la chère femme, si, aujourd'hui, je ne passais pas un bout de soirée près d'elle. Allons la retrouver. »« Volontiers. Mais, Sylvestre, j'ai fait un oubli, moi aussi. »« Lequel ?» Je n'ai pas de fleurs. Elle en a, tranquillise-toi. Des fleurs du midi, capiteuses, tout un panier, de quoi faire vivre une ruche d'abeilles ou de quoi tuer un homme dans son sommeil, au choix. C'est une attention annuelle d'un créancier très malheureux. D'un débiteur, tu veux dire ? Non, je dis bien, d'un créancier. Il prit la lampe. Les ombres, déplacées, coururent le long des murs comme des araignées gigantesques, les deux épées flamboyèrent, la Vénus de Milo jeta vers nous un regard altier, et la Polymnie apparut et s'effaça, rêveuse. Arrivé à la porte, je pris dans mes bras le mannequin drapé. « Permettez, lui dis-je, et nous sortîmes de l'atelier pour entrer dans le petit salon de Madame Lampron. Elle était assise près d'un guéridon, tricotant des bas, les pieds sur sa chaufferette. Son bon vieux visage épais et ridé nous sourit. Elle piqua ses aiguilles sous le bonnet de dentelle noire qu'elle portait toujours et les retira presque aussitôt. « Il a fallu que vous vinssiez, dit-elle, monsieur Mouillard, pour l'arracher de son atelier. » Un jour de Saint-Sylvestre, c'est affreux. L'amour de son art a dénaturé votre fils, madame Lampron. Elle le regarda tendrement, qui, à peine entré, s'était penché vers le feu et secouait sa pipe à moitié pleine sur les chenets, ce qu'il ne manquait jamais de faire quand il arrivait chez sa mère. « Cher enfant, » dit-elle. Puis, s'adressant à moi, « Vous êtes un bon ami, monsieur Fabien. Jamais une Saint-Sylvestre ne s'est fêtée ici sans vous depuis que vous habitez Paris. Pourtant, madame, je manque ce soir à mes traditions, je n'ai pas de bouquet. » Mais Sylvestre m'a raconté que vous veniez de recevoir des fleurs du midi d'un créancier malheureux. Je ne sais quel effet ces mots produisirent sur elle. Elle, qui ne s'interrompait de tricoter ni pour écouter ni pour parler, posa son ouvrage sur ses genoux et, fixant sur moi, ses yeux où perçait une inquiétude, « Il vous a raconté ?» Lampron, qui tisonnait, les pieds dans ses chaussons de travail, étendus vers le feu, se détourna. « Non, mère, je lui ai seulement dit que nous avions reçu un panier de fleurs. C'est une maigre confidence. Mais quand même, il saurait tout. N'est-il pas assez notre ami pour tout savoir? Il y a longtemps que ce serait fait si ce n'était une cruauté de partager entre trois le poids d'un chagrin qu'on peut porter à deux. » Elle ne répondit rien et se remit à tordre la laine entre ses aiguilles, mais agitée et songeant au-dedans à quelque chose de triste. Pour détourner la conversation, je leur fis le récit de ma double mésaventure à la Bibliothèque nationale et chez M. Charnot. Je tâchais d'être drôle et je croyais y réussir. La vieille mère souriait faiblement, Lampron demeurait sombre et hochait la tête d'un air d'impatience. Je terminai en disant « Bénéfice net, deux ennemis, dont l'un charmant. » « Oh, les ennemis, dit Sylvestre, c'est une génération spontanée. On n'y peut rien et les grands chagrins ne viennent pas d'eux. Mais défie-toi des ennemis charmants. » « Elle me déteste, je t'en réponds. Si tu l'avais vue... » « Et toi ?»« Moi, elle m'est indifférente. » « En es-tu sûr ?» Il me demanda cela gravement, sans me regarder, en roulant une allumette de papier. Je me mis à rire. « Qu'as-tu donc aujourd'hui, misanthrope? Je t'assure qu'elle m'est parfaitement indifférente. Mais quand il en serait autrement, Sylvestre, où serait le crime? Le crime, il n'y en aurait pas. Seulement, je m'inquiéterais pour toi, j'aurais peur. Vois-tu, mon cher, je te connais. Tu es né littérateur, rêveur, artiste à ta manière. Tu n'as, pour t'engager dans la redoutable aventure d'un amour quelconque, ni esprit de suite, ni sang-froid, ni résolution. Les impressions seules te guident, t'abattent ou te relèvent. Tu n'es qu'un enfant. Je le veux bien, et après ? Après, dit-il en se levant et avec une animation extraordinaire, j'ai connu jadis quelqu'un qui te ressemblait et dont la première tendresse, inconsidérée mais profonde comme serait la tienne, a brisé le cœur pour jamais. Car ça se brise le cœur, mon cher, et c'est une porcelaine qui ne se raccommode pas. La mère de Lamprin l'interrompit de nouveau d'un air de reproche. Il est venu pour te souhaiter ta fête, mon enfant. C'est un jour comme un autre pour recevoir un bon avis, mère. D'ailleurs, puisqu'il ne s'agit ici que d'un de mes amis. L'histoire n'est pas longue, Fabien, et elle est instructive. Je vais te la résumer. Il était très jeune, mon ami, très enthousiaste. Il courait les musées d'Italie, son pinceau à la main, et, dans le cœur, la chanson ininterrompue de sa jeunesse en fête. Rien ne l'avait déçu, rien ne l'avait heurté. Il pliait l'avenir à la fantaisie de ses rêves. C'est à peine s'il descendait parmi les hommes de ces régions supérieures où tant de chefs-d'œuvre, sans cesse renouvelés sous ses yeux, emportaient son esprit. Il admirait, il copiait, il s'imprégnait de la beauté lumineuse des paysages et des peintures d'Italie. Or, un jour, sans réfléchir, sans savoir, sans prévoir, il eut l'imprudence d'aimer une fille noble dont il peignait le portrait, de le lui dire et de se faire aimer d'elle. Il croyait alors, dans la naïveté stupide de son âge, que l'âge rapproche les distances et que l'amour les efface. On n'a jamais dit sottise plus amère, mon pauvre Fabien. Il a bien vu, il a essayé de lutter contre la révolte des parents, contre lui, contre elle-même, également impuissant partout, vaincu partout. Et la fin? Veux-tu savoir la fin? La jeune fille, emmenée au loin, atteinte d'un mal rapide, morte bientôt, lui, tombé de ses rêves, meurtri, fuyant aussi, et si faible encore contre cette douleur, après de longues années, qu'il ne peut y penser sans pleurer. Lamprin pleurait, en effet, lui, si fort d'habitude. Les larmes roulaient sur sa barbe blonde, un peu blanche au milieu. Je remarquai que Madame Lamprin s'était penchée bien bas sur son tricot. Il continua. J'ai gardé le portrait, celui que tu as vu, Fabien. Il voudrait la voir là-bas. Ce sont de pauvres vieux, à présent. Chaque année, il me la demande, cette relique de nos communes douleurs. Chaque année, il m'envoie, vers cette époque, un panier de fleurs blanches, des lilas surtout, la fleur de la morte, et cela veut dire « Abandonnez-nous ce qui reste d'elle, le chef-d'œuvre que votre jeunesse a fait avec la sienne. » Mais je suis égoïste, Fabien, je suis jaloux comme eux de toutes les douleurs que ce portrait me rappelle, et je refuse. Voyons, mère, où sont les fleurs? J'ai promis à Fabien de les lui montrer. Mais la vieille mère ne pouvait répondre. Ayant sans doute trop pleuré sur ce malheur pour trouver de nouvelles larmes, elle suivait des yeux, avec une compassion inquiète, son fils qui cherchait, du côté de la fenêtre, parmi les chaises et les fauteuils serrés les uns contre les autres, en cet endroit du petit appartement. Il enleva et apporta une caisse de bois blanc. « Tiens, dit-il, c'est la corbeille de noces. » Et il la vida sur la table. Des violettes de Parme, des lilas, des camélias blancs, de la mousse, roulèrent en jonchées légèrement ternies, répandant une odeur douce, où flottaient déjà je ne sais quelles effluves de mort et de corruption. Une violette tomba sur mes genoux, je la pris. Il considéra un instant ces grappes amoncelées, débordant la table. « Je n'en garde rien, moi, dit-il, j'ai trop de mes souvenirs. Ah, fleur maudite !» Il les ramassa d'un tour de bras et les jeta sur les charbons du foyer. Elles se tordirent, crépitèrent, puis, inertes, décolorées, se dissipèrent en fumée. « Maintenant, je retourne à l'eau-forte. Au revoir, Fabien. À demain, mère. » Puis, sans se détourner, il quitta l'appartement et rentra dans l'atelier. Je voulus le suivre et le ramener. Madame Lampron m'en empêcha. « J'irai moi-même, dit-elle, plus tard, bien plus tard. » Nous restâmes quelques instants silencieux. Quand elle me vit un peu remis de mon étonnement et de mon émotion, « Vous ne l'avez jamais vu ainsi, reprit-elle, mais moi, je l'ai vu souvent. C'est si cruel. J'ai connu celle qu'il aimait presque aussitôt que lui, car il ne m'a jamais rien caché. Vous pouvez juger, d'après son portrait, qu'elle était bien faite pour séduire un artiste comme Sylvestre. J'ai compris tout de suite qu'il y aurait là une épreuve pour mon fils et que je n'y pourrais rien. C'était de très grandes gens et pas nous, vous savez. Ils ont refusé le mariage. Oh non, Sylvestre n'a rien demandé. Ils n'ont pas eu à refuser, non, monsieur. C'est moi qui lui ai dit, Sylvestre, cela ne se pourra jamais, jamais. Il me croyait sans vouloir me croire. Alors, c'est elle qui a parlé à ses parents, en son nom, à elle. Ils l'ont emmenée et tout a été fini. Jamais il ne l'a revue, jamais il ne l'aurait pas voulu. Et puis, elle a vécu peu de temps. Moi, j'y suis retournée 2 ans après, quand ils m'ont fait venir pour acheter le tableau. Nous étions encore en Italie. Ça a été un des rudes moments de ma vie. J'avais peur de leurs reproches et je ne me sentais pas bien maîtresse de moi. Mais non, ils souffraient dans leur fille, comme moi dans mon fils, et cela nous a rapprochés. Nous nous sommes pardonné nos chagrins. Je n'ai pourtant pas cédé le portrait, Sylvestre y tenait trop. Il s'entête à le conserver, à le contempler, à rouvrir tous les jours son mal. Pauvre enfant, oubliez tout cela, monsieur Fabien, vous n'y pouvez rien. Soyez de votre âge et parlez-nous une autre fois de monsieur Charnot et de mademoiselle Jeanne. Excellente madame Lampron, j'ai essayé de la consoler, mais je n'ai pas eu de mère, moi. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Elle m'a remercié quand même et assuré que je lui faisais du bien.